Vous n'avez pas abordé la question de sécurité. Est-ce que les logiciels libres peuvent se faire pirater comme les autres? Et vous n'avez pas non plus dit les capacités des clouds. Est-ce que voilà, à combien de quelle est la mémoire qui est offerte d'office? Merci.
Oui, alors dans la présentation, j'ai vu beaucoup de logiciels assez généralistes. Est-ce que vous avez des recommandations pour la comptabilité, la gestion de projet, des choses plus fonctionnelles pour une association, par exemple? Merci.
Oui, j'ai une question, mais peut-être qui sort du périmètre de notre séance. On a beaucoup parlé des logiciels libres, mais qu'en est-il du hardware libre?
Moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, comme quoi en fait les logiciels parfois ou les outils qu'on utilise agissent un peu comme des boîtes noires. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et en même temps, quand on fait du développement logiciel, par exemple, on dit toujours que il faut que l'outil soit transparent pour l'utilisateur, qu'il sache pas vraiment ce qui se passe derrière, que ça soit le plus simple possible d'utilisation. Et je me pose la question, quelle pourrait être une bonne manière d'à la fois rendre les outils transparents et simples d'utilisation, mais en même temps d'expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que c'est avec de la documentation? Est-ce qu'il y a des alternatives? Voilà.
Alors par rapport à la première question concernant la sécurité, moi ce que j'ai tendance à dire quand on me pose ce genre de questions, c'est qu'en fait, là je parle de Linux un peu côté post-utilisateur, mais en fait une grande partie de l'Internet tourne sous Linux. Et donc en fait, si nous on a des serveurs avec du Linux avec des choses dessus, mais en fait on a probablement des logiciels très similaires à ceux que vont utiliser potentiellement Google, potentiellement Microsoft. Et en fait finalement d'être dans quelque chose de plus entre guillemets artisanal, amable du numérique peut donner l'impression que ben voilà c'est moins sécurisé. A priori, ben, nos serveurs vont respecter en fait les standards techniques. Et ce qu'on oublie aussi, en fait, dans cette perspective-là, c'est que ce dont Chloé a parlé par rapport à la collecte de données, ben, on est vraiment avec des prestataires techniques qui vont pas du tout opérer ce truc-là. Je ne sais pas si plus tard, Denis, tu voudras ou si tu veux rajouter quelque chose à ce truc-là, parce que moi, je suis plus dans la partie formation de tactique, Denis est plus dans la partie aussi technique, où je continue et... Okay. Par rapport aux capacités, alors effectivement, ben, si vous avez un cloud chez Nibo, vous allez avoir, je pense, 5 gigas à répartir entre votre cloud et votre mail pour 2,50 € ou 3,50 € si vous n'êtes pas coopératrice ou coopérateur par mois. Ben, ça paraît en fait très cher par rapport à des entreprises qui offrent plein plein de stockage gratuitement, souvent, ou bien en payant, mais qui du coup vont exploser la capacité de stockage. Et en fait, c'est ça que je voulais dire aussi à la fin, où on avait discuté, sur lequel je voulais aussi revenir. En fait, ces entreprises, elles nous ont habitués à un numérique qui est, Chloé mentionnait les impacts énergétiques, qui en fait, qui a beaucoup d'impact, qui a beaucoup de... qui en fait nécessite finalement d'avoir une grosse infrastructure technique. Ben, quand on se dirige vers du logiciel libre, quand on travaille avec ben, un prestataire comme Domaine Public, avec des membres des chatons, on est finalement, à mon sens aussi, dans une démarche finalement de décroissance numérique. Et parfois, c'est ça aussi qui est difficile dans la transition, c'est de se dire, ben, l'outil, il va pas forcément en fait être aussi bien que celui de Google ou que Microsoft. Même très probablement, il sera pas aussi bien. Ce sera moins résilient aussi parce que ben voilà en fait si Tactique Domaine Public héberge vos mails, ben, ça va être quelque part sur un serveur genre à Zaventem. Bon bah ben, si le serveur a un problème, s'il y a un problème réseau dans le data center, ben, potentiellement il peut y avoir un moment où ce service ne va plus être accessible. Ça peut arriver. Et donc, en fait, on est dans une démarche aussi de, bah oui, il y a des choses qui vont être plus lentes, il y a des choses qui parfois vont tomber en panne, il y a, voilà, un rapport finalement à la technologie qui est différent, mais qui, à mon sens, entre aussi en résonance avec d'autres démarches militantes. Et c'est vrai que dans le petit point là, mais c'était beaucoup sur la demi-heure, il y avait aussi la question de comment on peut travailler sur ces problématiques-là avec des publics potentiellement de l'action sociale. Pour moi, il y a vraiment une convergence à faire entre cette démarche-là. Et en fait, d'autres postures d'action, d'autres postures de transformation sociale qui, voilà, qui s'inquiètent en fait des impacts environnementaux, qui s'inquiètent aussi de, bah de, voilà, Lire et Écrire a beaucoup porté la campagne l'humain d'abord, ben aussi de dire à des moments, voilà, en fait, il faut peut-être réapprendre à se passer de numérique et réintroduire d'autres choses dans nos relations sociales et dans nos manières de travailler. Et je pense qu'en fait, tout ce logiciel libre et ce type de transition participent d'une certaine manière aussi de ça, de dire, on n'est plus dans cet écosystème des grandes entreprises du numérique où tout est intégré, où tout est bien lifté, bien fait pour qu'on n'y voit rien et qu'on ne s'inquiète pas non plus des impacts parce que tout est instantané et que voilà, comme ça tourne, je vais m'arrêter là. Par rapport au hardware libre, donc effectivement, toute la démarche du logiciel, elle existe aussi avec le hardware. Évidemment, c'est difficile pour nous, en tant que prestataires, voilà, il y a très très peu d'ordinateurs finalement qui vont être qu'avec du hardware libre. Ça existe, mais c'est pas du tout évident. Donc nous, on centre notre action plus sur du logiciel. Mais c'est des démarches qui existent. Et par exemple, moi, je fais partie d'une autre asso où on propose de l'auto-hébergement. C'est encore plus radical que les chatons. C'est avoir ses propres services web chez soi. Et on travaille notamment avec des petits ordinateurs, un peu comme ça grand, qui sont du hardware libre, créé par Olimex, qui est en Roumanie, je crois, qui font vraiment du hardware complètement libre. Concernant la dernière question du développement et des boîtes noires, des outils, pour moi, en fait, cette demande de l'outil, en fait, qui ne va pas demander à la personne de réfléchir, il participe aussi de ce numérique qui est partout, tout le temps, qui veut se rendre intuitif pour tout le monde, mais qui, du coup, nous rend aussi très dépendants aux décisions qu'en fait les entreprises vont prendre pour nous en tant qu'utilisateurs ou utilisatrices. Donc, je pense qu'il y a une balance à faire entre facilité et aussi justement d'être en fait, de ne pas rendre non plus les utilisateurs et les utilisatrices captifs et captives de cette facilité. Après, moi, je ne fais pas de développement logiciel, donc en même temps, c'est une réponse un peu de briques et de broc.
La question, je crois que je vais passer à la thème conquiste pour savoir s'il y avait. J'ai vu dans la présentation toute une série de logiciels très général.
Ah oui, oui.
Général. Savoir est-ce qu'il y a des logiciels plus spécifiques. Je pensais par exemple à Dolibar, un FP source, mais est-ce que vous avez d'autres logiciels
En fait, j'ai zappé cette question-là, parce qu'il y avait beaucoup de questions. Mais donc oui, il y a des logiciels plus spécifiques. Nous, on travaille parfois avec Oodoo pour de la compta. Après, là, je pense que Denis apportera plus de réponses, parce qu'en fait, moi, je suis surtout sur des formations beaucoup bureautiques, beaucoup usages. Et donc, en fait, je connais assez mal, finalement, tout ce qui est fait. Pour de la gestion aussi, par exemple, d'adhésion, nous, on maintient des civils CRM. Mais voilà, qui n'est pas non plus un logiciel que je connais super bien moi-même. Je ne sais pas non plus si tu as...
Il y a plein d'outils qui existent, il y a plein de des fonctionnalités très précises, plein. Donc, il y a Oodoo, nous, on utilise la branche communautaire d'Oodoo, dans laquelle il y a plein de modules qui permettent de gérer à la fois la comptabilité, à la fois la gestion de projet, à la fois plein d'autres choses qu'on peut greffer dessus. Et il y a vraiment une kyrielle de RP qui existe aussi, qui ont chaque fois des fonctionnalités bien précises, quoi. Voilà. C'est beaucoup orienté gestion de projet, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'était vraiment ça le...
Oui, c'était un peu ça. J'en connais l'un ou l'autre, mais c'était pour voir s'il y en avait d'autres qui étaient plus publicitaires sur les réseaux chatons ou autres. Je connais Dolibar, je connais évidemment tout.
Il y a Open Project, il y en a vraiment plein.
Je pense qu'il y a un truc développé par l'April qui s'appelle Beneva Libre, mais que je connais assez mal. Un logiciel libre au service des associations, mais je lis un peu en le voyant. Après, nous, on ne le connaît pas vraiment de notre côté, mais je crois que c'est aussi que c'est un logiciel un peu qui regroupe différentes fonctionnalités à voir, peut-être à creuser ce truc-là.
Il y a plein de sites qui permettent de rechercher des alternatives en matière. Tu mets le nom d'un logiciel, tu cliques par type de licence et tu as tous les logiciels libres qui peuvent s'afficher en fonction de comment ils ont été notés par différents utilisateurs. Donc, comme ça, tu peux déjà des listes aussi, aller voir si ça correspond ou pas à tes attentes.
Okay. Ah ouais. Et ça, vous avez sur le site de. On peut retrouver cet outil Alternative Tool.
Il y en a tout plein.
Il
y a Alternative Tool, il y a plein d'autres outils. Okay. En général, on fait une recherche dans un moteur de recherche et on tape Alternative Tool, le nom du logiciel. Et il y a souvent plusieurs sites qui proposent des outils.
Ça va.
Oui, une question par rapport au compte Google qu'on doit ouvrir sur les smartphones et tablettes. Est-ce qu'il y a une alternative? Parce qu'on ne sait pas faire autrement.
Donc, concernant les smartphones, il existe une alternative. Il y a un petit, en fait, Android étant un système ouvert, en fait, qui dérive de Linux, autorise, en fait, que, bah, par défaut, on va avoir le Play Store de Google, mais on peut avoir aussi des magasins alternatifs d'applications. Et voilà, bon, par exemple, j'ai même un Android qui est complètement sans Google. Et, mais je vais avoir accès à certaines applications, même potentiellement propriétaires, dont je peux avoir besoin, via un petit magasin d'applications qui s'appelle Aurora Store. Et en fait, dans Aurora Store, on peut avoir une connexion qui est sans compte Google. Donc évidemment, bah, y a des choses, par exemple, je pense qu'il bah, oui, garde pas les applications qu'on a installées ou ce genre de choses. Mais en fait, on peut utiliser, on peut aller installer même WhatsApp, même d'autres applications, Instagram et tout, mais sans passer par le Play Store. Et il existe même un autre magasin qui est plus spécifique au logiciel libre qui s'appelle F-Droid. Si vous avez envie de chercher des logiciels libres pour votre smartphone Android, F-Droid ne vous permet de télécharger que des logiciels libres sur votre smartphone Android.
Comment c'est
F-Droid? Mais F-Droid, oui.
F-Droid, mais avec un F devant.
Mais je propose qu'on, par exemple, je peux faire vous montrer à quoi ça ressemble, mais que après, comme ça, on laisse la suite progressivement s'installer.
Merci beaucoup.